Bonjour Cédric O.
Bonjour.
Demain, cela fera un an que Samuel Paty a été assassiné. Journée d'hommage aujourd'hui dans les établissements scolaires. Ce professeur d'histoire géo qui a été tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Aujourd'hui encore, des professeurs ont peur d'aborder les questions religieuses en cours. Beaucoup se sentent encore abandonnés.
Non, écoutez, d'abord, je pense que c'est très important ce moment d'hommage. Ça rappelle le combat qui doit être mené et qui est encore d'actualité. Ce que je pense que dit, en fait, ce que vous venez de dire, c'est à quel point aujourd'hui les professeurs sont en première ligne sur énormément de sujets dans notre société. C'est vrai sur ces questions de laïcité, c'est vrai sur des questions de haine en ligne, c'est vrai sur énormément de questions sociétales. Et je pense que il s'agit de les accompagner et il s'agit de se poser la question de comment notre société et quelle relation notre société a avec ceux qui font l'avenir de nos enfants. Et je pense que c'est plus profondément une question à se poser dans les mois ou les années à venir, parce que je pense que c'est indispensable si on veut préparer l'avenir.
Mais les enseignants se sentent encore seuls aujourd'hui sur ces questions.
Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de signes qui ont été envoyés de la part du gouvernement. Le président lui-même avait souhaité, à l'occasion de Samuel Paty, prendre cet exemple pour rappeler leur importance dans à la fois la laïcité à la française, évidemment, mais également les questions sociétales et les différents défis auxquels nous sommes confrontés. Je crois que Jean-Michel Blanquer a eu l'occasion, lui également, de s'engager. S'il faut faire plus, on fera plus. Mais je dépasse un peu la question du gouvernement parce que je pense profondément, vous savez, moi je suis à moitié coréen, donc je vois très bien la relation qu'ont d'autres pays à leurs enseignants, à quel point cette question peut être centrale dans une société.
L'assassinat de Samuel Paty avait déclenché quelque temps après une campagne hostile à la France sur les réseaux sociaux, menée notamment par la Turquie indirectement. C'est justement contre ce genre de campagne de désinformation que l'agence Viginum commence ses travaux aujourd'hui. C'est une agence française de lutte contre la désinformation sur Internet. Vous y avez participé à sa création. Concrètement, comment ça va marcher et quels sont ses pouvoirs?
Alors c'est assez simple. Si on regarde ce qui se passe à l'étranger, la question n'est pas de savoir s'il va y avoir des interférences étrangères, à la fois d'ailleurs dans les prochaines élections électorales, enfin échéances électorales, ou dans le cours de la vie politique. La question est de savoir et quand, comment, et de le détecter. Et donc le travail de Viginum, il est extrêmement simple. Il est en lien d'ailleurs avec les plateformes de regarder ce qui se passe et de détecter ou d'analyser s'il y a des influences étrangères, et ensuite de passer la balle, si je puis me permettre, soit à la justice, soit à la diplomatie, ou en tout cas de pouvoir révéler ce genre de choses, parce que évidemment, il est inacceptable qu'il y ait des interférences étrangères, qu'il y ait des pays qui viennent interférer dans notre processus démocratique. C'est malheureusement le monde dans lequel nous vivons. Nous l'avons vu aux États-Unis lors des précédentes campagnes. On l'a vu dans à peu près toutes les grandes échéances électorales du monde occidental. Mais le premier élément sur lequel jusqu'ici on était assez démunis, c'est l'analyse et la détection.
Et aussi le temps de réponse. Parce que analyser, détecter, dire voilà, il y a un problème avec cette campagne de désinformation. Ensuite, il faut agir derrière. Et ça peut prendre du temps, parce que souvent, les grandes plateformes, Twitter, Facebook, mettent du temps à réagir.
Alors oui, mais la détection, elle est absolument indispensable. Parce que, imaginons qu'un pays, par exemple de l'Est, vienne interférer, en tout cas, créer une campagne de désinformation en France pendant une campagne à venir, une campagne électorale à venir. C'est déjà une chose très importante de le détecter et de le dire publiquement. Ensuite, la question de la réponse diplomatique, la réponse judiciaire, les tensions qu'il peut y avoir, c'est une autre temporalité. Et la correction de ce qui se passe, y compris avec les plateformes, est une autre temporalité. Mais déjà, pouvoir dire à vous, journaliste, on a détecté ça et on sait que sur telle campagne de désinformation, c'est tel pays ou tel pays, parce que si vous regardez tel compte sur Twitter, sur Facebook, en fait, vous voyez que c'est pas normal, eh bien c'est extrêmement important dans un débat démocratique.
Vous dites qu'il y aura forcément des attaques, on est à un peu plus de 6 mois de la présidentielle, forcément des attaques, vous avez déjà identifié d'où elles vont venir ? On parle beaucoup des fermatrolls en Russie, j'imagine que vous avez d'autres suspects.
Ce qui est malheureusement intéressant avec ce genre d'attaque, c'est que, et on l'a vu d'ailleurs avec les dernières révélations sur Pegasus, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'outils sont en vente ou à disposition de, pas seulement des grandes puissances, mais d'énormément de puissances. Donc les attaques peuvent venir de n'importe où, et encore une fois, que ce soit les cyberattaques ou la désinformation, dans les dernières échéances électorales occidentales, il n'y a pas eu une échéance électorale où il n'y a pas eu un problème. Donc il faut s'y préparer. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les solutions, mais en tout cas, il faut s'y préparer de manière très déterminée.
Vous allez avoir de l'argent à distribuer pour vos derniers mois, en tout cas au gouvernement, à ce poste. Emmanuel Macron a annoncé Un milliard d'euros pour votre secteur dans ce cadre de son plan France 2030. Comment vous allez les dépenser, cet argent?
Alors, il y a deux objectifs à France 2030. Le premier, c'est d'investissement dans le progrès. Si on regarde tous les défis auxquels sont confrontées nos sociétés, le défi de la transition environnementale, le défi de la santé, le défi du vieillissement, le défi de l'alimentation, on a besoin de profondément innover pour profondément transformer nos modes de production et de consommation. Donc si on veut répondre à ces défis, on a besoin d'investir dans l'innovation. Et le deuxième élément, c'est un message d'indépendance. On a vu que tous les grands géants technologiques qui ont émergé ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années, ce sont des géants technologiques américains ou chinois. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte, il y a ce matin l'annonce de l'introduction en bourse d'OVH, par exemple, c'est un très bon exemple. On veut faire en sorte que les futurs géants technologiques dans l'ensemble de ces secteurs, ils soient en France et en Europe. Oui, comme Facebook et comme Snapchat, ça arrive à peu près au meilleur.
On parle de la France 2030. Il y a aussi la France d'aujourd'hui, celle qui a du mal à faire le plein de sa voiture. Les prix à la pompe flambent. Vous allez peut-être mettre en place un chèque essence pour les plus modestes. C'est ça qui est sur la table du gouvernement?
Alors, on avait déjà augmenté le chèque énergie. Il y a effectivement une grande préoccupation du gouvernement qui est ces prix de l'énergie, parce que ça impacte le quotidien des Français. Il y a des réflexions menées chez le Premier ministre Bruno Le Maire sur le sujet. Je ne vais pas préempter ce qui va être décidé, mais le gouvernement est déterminé à faire en sorte de protéger le pouvoir d'achat des Français. On l'a fait sur le gaz, avec ce bouclier tarifaire qui va entrer en vigueur. J'étais hier au Parlement pour le faire voter avec Olivier Dussopt. Et sur l'essence, il faut qu'on analyse la manière d'agir. Mais oui, il y a des réflexions qui sont en cours pour faire en sorte de protéger.
Il faut réagir vite. J'imagine que en pleine campagne présidentielle, vous avez connu les gilets jaunes. C'est un sujet inflammable, sans mauvais jeu de mots.
C'est un sujet important pour le pouvoir d'achat des Français.
Très bien. Vous appartenez à un gouvernement qui est le plus cher de la Ve République, selon l'ancien député René Dosière. Pourquoi vous coûtez aussi cher?
Non mais je veux bien qu'on regarde le nombre de conseillers, ce qui a été fait par René Dosière. Je pense que le fond du sujet pour les Français, c'est pas de savoir s'il y a 1, 2, 3 conseillers de plus. Le fond du sujet, c'est de savoir si l'économie se porte bien, si on réduit le chômage. En l'espèce, la France a le plus gros taux de croissance, enfin aura cette année le plus haut taux de croissance de l'Union européenne. Le chômage est à un niveau historiquement bas, il n'a pas été aussi bas depuis 15 ans. S'il continue sur cette pente, on aura un niveau de chômage qui est inconnu depuis les années 80. Rendez-vous compte. Et donc, si pour ça il faut un peu plus de conseillers, un peu moins de conseillers dans les ministères, je pense que c'est une question secondaire.
Vous êtes très proche d'Emmanuel Macron, vous avez participé à sa campagne en 2017. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué au foot avec lui, mais hier, il a marqué un but, le président. Il a joué à Poissy avant les JO 2024, c'était pour le Variété Club. Ça fait de belles images, il a enchaîné les annonces, les chèques ces dernières semaines. En quoi il n'est pas en campagne, le président? Il n'y a pas de mal à le dire, il peut être président et en campagne.
Mais si, bon, je souhaite qu'il soit en campagne. Je trouve que dans le débat un peu crépusculaire actuel politique où tout le monde, c'est un peu la compétition du c'était mieux avant, ce qu'on fait par exemple sur France 2030, cette projection dans la France dans l'avenir, c'est le seul à le porter. Maintenant, sur les éléments que vous évoquez, s'il devait entrer en campagne, c'est à lui de décider quand. Et puis s'agissant du match de foot d'hier, comme vous le savez, c'est probablement un supporter de l'Olympique de Marseille. Je crois quand on vous propose de jouer avec Marcel Desailly, c'est difficile de résister.
Rapidement, vous avez connu le climat de la campagne 2017. On disait déjà que c'était difficile. Là, comment vous appréhendez à 6 mois du scrutin avec Éric Zemmour, haut dans les sondages?
Le problème, c'est pas tant Éric Zemmour. Je veux dire, ça, c'est son problème plutôt que le nôtre. Je trouve que le plus gros problème est le climat. Vraiment de déclin, de peur, où en fait le seul sujet qui semble sur la table semble être un sujet de protection. C'est important, la protection, mais je pense que le grand débat actuel dans le monde, c'est la place de la France dans le monde, c'est la compétition entre les États-Unis et la Chine, et ça, Emmanuel Macron est le seul à le porter.
Merci Cédrico.